Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 5 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. La répression au Soudan a fait au moins 60 morts depuis lundi, selon un comité de médecins proches de la contestation. Une première au Mozambique, le groupe État islamique revendique des attaques contre l'armée dans le nord du pays. En Grande-Bretagne, coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du débarquement en présence de Donald Trump. Pour la Journée mondiale de l'environnement, nous irons sur le littoral gabonais où la mangrove est menacée à Libreville. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Soudan, des coups de feu ont été entendus dans les rues de Khartoum. La répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire au pouvoir a fait, selon les manifestants, au moins 60 morts depuis lundi. Bagassi Koura.
Des coups de feu ont été entendus dans Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil militaire, s'est dit ouvert à des négociations sans restriction. Des paramilitaires reliés à l'armée, c'est-à-dire les forces de soutien rapide, ont été déployés à travers le pays, notamment à Khartoum. Lundi, le sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum a été violemment dispersé. Les leaders du mouvement accusent les militaires d'avoir commis un massacre. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 60 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées. Ce comité avait toutefois indiqué mardi que le nombre réel des morts était plus important car seuls les corps recueillis dans les hôpitaux ont été comptabilisés. L'Internet mobile n'est plus accessible depuis lundi alors que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans la contestation.
Le président tchadien Idriss Déby a dénoncé de fortes complicités locales avec le groupe Boko Haram dans la région du lac Tchad, appelant à dénoncer tous ceux qui servent de relais aux terroristes. Il a également menacé de rétablir la cour martiale supprimée en 1993, alors que l'est du pays est en proie à un grave conflit entre éleveurs et agriculteurs. Pour l'opposition tchadienne, les dernières déclarations du chef de l'État illustrent son incapacité à continuer à présider aux destinées du Tchad. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Rebondissement dans l'affaire de l'assassinat du militant des droits humains Floribert Chebeya en République démocratique du Congo en 2010. Paul Mwilambwe, condamné à mort par contumace pour son rôle présumé dans cet assassinat, a annoncé qu'il demandait son extradition vers la RDC. Claire Morin-Gibourg.
Depuis Dakar où il avait fui, l'ancien policier Paul Mwilambwe a dit à des médias étrangers « Je veux que la République démocratique du Congo demande mon extradition parce que je vis caché au Sénégal depuis 5 ans et je n'ai toujours pas été jugé. Je veux simplement que la justice fasse son travail », a-t-il déclaré. Paul Mwilambwe promet de témoigner contre l'ex-chef de la police, le général John Numbi, promu inspecteur général de l'armée, et contre l'ancien président Joseph Kabila. Le corps de Floribert Chebeya, de la Voix des Sans-Voix, a été retrouvé le 2 juin 2010. La veille, il avait été convoqué pour rencontrer le général John Numbi dans les locaux de la police. Le corps de son chauffeur, Fidel Bazana, n'a jamais été retrouvé et la justice a conclu à son assassinat. Lors d'un hommage mercredi à Kinshasa, sur la tombe de Chebeya, l'ONG La Voix des Sans-Voix a demandé au nouveau président Félix Tshisekedi la réouverture du procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya.
Le neveu du journaliste d'investigation malien Birama Touré, disparu en 2016, a déposé plainte en France pour torture et meurtre alors que le fils du président Karim Keïta a intenté une action en diffamation contre l'hebdomadaire privé Le Sphinx. Le directeur du journal avait dit l'an dernier que son ex-reporter avait approché Karim Keïta à propos d'un dossier portant sur sa vie privée et que des membres de l'entourage du député l'auraient enlevé et assassiné. Baladji Touré, qui vit en région parisienne, a déposé une plainte contre X devant le tribunal de grande instance de Paris. La crise humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun est la plus négligée au monde, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Tandis que la crise se poursuit, la communauté internationale demeure passive, a déclaré Jan Egeland, secrétaire général de cette ONG présente au Cameroun depuis 2 ans. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans son rapport au Conseil de sécurité, M. Guterres indiquait que la violence et les abus sont apparemment perpétrés tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés. En Ouganda, 6 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues dans le district de Bududa à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. La Croix-Rouge ougandaise a indiqué que des premières informations faisaient état d'environ 150 maisons détruites et une cinquantaine de disparus, dont des enfants. Au Mozambique, le groupe État islamique a affirmé pour la première fois être impliqué dans des combats récents avec l'armée dans le nord du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les soldats du califat ont pu repousser une attaque de l'armée mozambicaine des croisés dans le village de Metoubi, dans le nord du pays, a affirmé le groupe État islamique dans un communiqué traduit par le site Intelligence Group. C'est la première fois que le groupe djihadiste affirme opérer au Mozambique. Il a ajouté que ses combattants, les Mujahidines, ont saisi des armes, des munitions et des roquettes. La police mozambicaine a démenti ces informations. L'armée et la police ont renforcé leur présence dans le nord, mais peinent à contenir les nombreux attaques. Le mois dernier, le groupe désigné par la population locale sous le nom de Al-Shabaab a tué au moins 40 personnes, blessé des dizaines d'autres et incendié des centaines de maisons. Depuis un an et demi, plus de 200 personnes ont été tuées, souvent à la machette, ou brûlées vives dans des villages et des embuscades dans l'extrême nord du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump, Emmanuel Macron et la reine Elisabeth ont donné à Portsmouth le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du débarquement en rendant hommage aux héros qui ont contribué à la libération de l'Europe. Le point avec Irénée Herman Ongbo.
Les célébrations ont commencé avec la projection sur un écran géant d'images du D-Day montrant ces soldats qui, au péril de leur vie, débarquèrent sur les plages de Normandie. Aux côtés de la reine, il y avait le président américain Donald Trump, le français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que la britannique Theresa May. Le président américain a lu une prière que Franklin Roosevelt avait déclamée à la radio au soir du 6 juin 1944 en soutien à ceux qui combattaient pour libérer une humanité souffrante. Pour sa part, Emmanuel Macron a relu la poignante lettre d'adieu d'un jeune résistant Henri Ferté, fusillé à l'âge de 16 ans. Les chefs d'État et de gouvernement ont assisté à l'embarquement de 300 anciens combattants britanniques qui rejoindront la France en bateau pour les commémorations demain en Normandie.
La Commission européenne a présenté un projet de budget de 168,3 milliards d'euros pour 2020, dans lequel est inclus la contribution britannique, et a évoqué la possibilité de devoir rectifier le tir en cas de Brexit sans accord. Un retrait désordonné pourrait être le principal problème pour le budget de 2020, a averti le commissaire européen Günther Oettinger à l'issue d'une présentation du projet aux eurodéputés de la commission des budgets à Bruxelles. Il entraînerait selon lui une perte de 12 milliards d'euros. Des républicains et démocrates se sont réunis ce mercredi au Sénat américain pour tenter de bloquer des milliards de dollars de vente d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, autorisés par le président Donald Trump. En invoquant une situation d'urgence provoquée par l'Iran, l'administration américaine a employé des pouvoirs extraordinaires pour autoriser directement 22 ventes d'armes à ces pays pour plus de 8 milliards de dollars. Et la liberté de la presse est en déclin dans le monde entier, certains gouvernements démocratiques se joignant aux efforts de régimes autoritaires pour empêcher le journalisme indépendant, selon Freedom House. Des déclins notables sont observés, y compris en Europe, selon le rapport annuel du Centre de réflexion américain. Dans certaines des démocraties les plus influentes du monde, des dirigeants populistes ont supervisé des tentatives coordonnées pour asphyxier l'indépendance des médias, indique l'étude. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Banque du Ghana a annulé 347 licences d'institutions de la microfinance pour protéger les épargnants. La banque a constaté que 192 institutions de microfinance étaient insolvables et que 555 autres avaient cessé leurs activités. La révocation de ces licences a pour but de supprimer les institutions insolvables et qui empêchent les épargnants d'accéder à leurs dépôts. La Cour constitutionnelle du Mozambique a annoncé que les prêts frauduleux secrets accordés au gouvernement sont nuls et non avenus. Ces prêts d'environ 2 milliards de dollars ont été contractés par les autorités entre 2013 et 2015 pour financer une flotte de bateaux de pêche et un projet de surveillance maritime. Des associations de la société civile estiment que le Mozambique risque d'aggraver sa situation financière précaire en remboursant pendant des années ses prêts illégaux. Pour terminer, en Guinée, l'exploitation du minerai de fer a commencé. L'accent est mis sur de petites découvertes dont la production pourrait être acheminée via le Libéria si ArcelorMittal, l'unique concessionnaire ferroviaire du Libéria, autorise l'autorisation de ces infrastructures. L'exploitation de Simondou, le plus grand gisement de fer, est bloquée à cause du coût des infrastructures et des conflits juridiques prolongés. La Guinée essaie toujours de conclure un accord avec la Chine pour construire environ 650 km de chemin de fer pour le transport du minerai de fer à travers la Guinée.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Mondial des moins de 20 ans, le Mali se qualifie pour les quarts.
Oui, les Aiglons se sont qualifiés en éliminant l'Argentine en huitième de finale lors de la séance des tirs au but 5-4. À l'issue des prolongations, le score entre les deux équipes était de 2-2. Les Aiglons affronteront l'Italie vendredi en quart de finale. Avant le Mali, le Sénégal a battu le Nigeria 2-1 et s'est qualifié pour les quarts de finale où les Lionceaux feront face à la Corée du Sud, vainqueur du Japon 1-0.
Giannini Infantino réélu sans surprise pour un deuxième mandat.
Oui, le président de la FIFA, seul candidat en lice, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'instance jusqu'en 2023 à Paris lors du 69e congrès de la Fédération internationale de football. Le dirigeant suisse qui avait succédé en 2016 à Sepp Blatter a été élu par acclamation. Un mondial 2018 en Russie sans faute, l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage ou encore un mondial 2026 à 48 équipes attribué au trio États-Unis-Canada-Mexique. Le bilan de Gianni Infantino a convaincu les 211 fédérations membres de renouveler son mandat. Il s'est réjoui de la solidité financière de son organisation qui a vu ses revenus passer de 4,6 milliards à 6,4 milliards de dollars sur le cycle 2015-2018.
Buffon quitte le PSG.
Et oui, le gardien italien de 41 ans quitte le PSG cet été après une saison globalement ratée pour l'ex-portier de la Juventus Turin qui n'aura pas réussi à aider Paris à progresser en Ligue des Champions. Paris avait alterné cette saison dans les cages entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, 26 ans. L'entraîneur Thomas Tuchel avait annoncé le 10 mai vouloir mettre un terme à cette rotation. L'international italien a disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues avec le PSG. Il a remporté un titre de champion de France et un trophée des champions.
Et la plainte pour viol visant Cristiano Ronaldo a été retirée.
Oui, relancée l'an dernier pour des faits remontant à 2009, cette plainte a été retirée selon l'annonce faite par l'agence Bloomberg qui précise ne pas savoir si un accord financier est intervenu entre les deux parties. Une demande de retrait de la plainte a été déposée le mois dernier devant la justice du Nevada à Las Vegas selon Bloomberg. Ronaldo, quintuple ballon d'or et actuel joueur de la Juventus Turin, était accusé de viol par l'américaine Catherine Mayorga. Elle affirmait dans une plainte au civil déposée à Las Vegas que le Portugais avait abusé d'elle le 13 juin 2009 dans sa chambre d'hôtel alors qu'elle avait refusé ses avances, des accusations que Ronaldo a toujours niées.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Suite aux affrontements intercommunautaires survenus dans la province de Wadaï et dans le grand Mayo Kébi au Tchad ayant fait une centaine de morts, le président Idriss Déby a annoncé son intention d'envisager plusieurs options pour situer les responsabilités. Selon lui, il faut avoir recours à la cour martiale ainsi que procéder à la révision totale de la DIA ou prix du sang pour contraindre les différentes communautés tchadiennes à vivre en paix. Voici des réactions d'organisations de la société civile et de personnalités politiques dans un reportage d'André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
La cour martiale que le président Déby veut ressusciter est une juridiction d'exception qui fait recours à l'application de la peine de mort en cas de crime dont les Tchadiens ont exigé sa suppression à la Conférence nationale souveraine de 1993. Un moratoire sur la peine de mort qui est une voie légale vers son abolition a été ratifié par le Tchad, mettant ainsi en voyelle cette juridiction. Pour le président Déby, cette option peut être une alternative pour le règlement des conflits entre les communautés qui sont en train de saper les bases de l'unité nationale. Le sang des Tchadiens a assez coulé et nous devons impérativement mettre un terme à cette cruauté humaine, a-t-il dit. Pour Dobian Asingar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Idriss Déby n'a pas besoin d'une cour martiale pour régler les cas de conflits qui sont commis dans le pays.
Le président de la République doit savoir que dans ce pays-là, les conflits agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires font chaque jour des dizaines, voire des centaines de morts. Il fallait régler ce problème avec les juridictions qui sont déjà là sur place. On ne l'a pas fait, on veut maintenant ressusciter la cour martiale, mais dans ces conditions-là, il faudrait que le président de la République sache que c'est peut-être la moitié des Tchadiens qu'il va passer par les armes.
Le président de l'Union sacrée pour la République, François Ndjekombe, estime pour sa part que si cette intention est traduite en acte, c'est une fuite de responsabilité du président Déby.
Si le président n'est plus capable de gouverner le Tchad, qu'il cède la place à d'autres catégories de Tchadiens pour faire leurs preuves. Ce n'est pas le rétablissement de la cour martiale qui va résoudre le problème des Tchadiens. Ce n'est pas parce qu'on se rend compte que des parents du président ont été impliqués dans des massacres qu'on va dire non, on n'applique plus la DIA. Il faudrait donc traiter les citoyens sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, c'est l'implication des autorités administratives, des autorités traditionnelles dans les conflits qui créent toutes ces tensions-là aujourd'hui dans le pays. Les mêmes qui sont au pouvoir arment les éleveurs contre les cultivateurs, etc. Et lorsque les problèmes éclatent, c'est toujours ça.
Le secrétaire général du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut parti au pouvoir, Jean-Bernard Padaré, appelle les acteurs de la société civile et les responsables des partis politiques de l'opposition à la retenue.
Nous ne disons pas que la justice ordinaire n'arrive pas à trancher le problème, mais nous pensons qu'il faut sortir le grand remède. C'est un avertissement. Si la situation perdure, on sera contraint de rétablir la cour martiale. Cet avertissement doit être pris au sérieux parce que la paix dans notre pays n'a pas de prix.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive, c'est à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. C'est aujourd'hui la journée mondiale pour l'environnement. L'Afrique est l'un des continents les moins pollueurs, mais subit le plus les effets du réchauffement de la planète. Les continents africains et asiatiques sont les plus touchés par les émissions de gaz carbonique. Dans plusieurs villes, l'air est irrespirable à cause des pots d'échappement des voitures et engins à deux roues. Les arbres sont coupés pour faire du bois de chauffe. Que faites-vous pour protéger votre environnement? Venez en discuter en direct ce soir en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
C'est aujourd'hui le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Combattre la pollution de l'air est le thème de l'édition 2019. L'environnement, c'est aussi bien sûr la préservation des écosystèmes. À Libreville, les ONG environnementales s'indignent de la destruction des mangroves qui amplifient l'érosion du littoral gabonais. Voici un reportage d'Ismaël Obiangenze à Libreville.
Avec les inondations, la mangrove du littoral gabonais subit des pressions considérables liées à l'extension de la ville. Gérald Ifunji est un habitant du nord de Libreville. Il accuse les exploitants de sable d'être à l'origine de ce désastre.
La mangrove où la reproduction des poissons s'effectue, les individus, soi-disant qu'ils ont une autorisation du maire, et quand on interroge le maire n'a jamais donné une autorisation à ces gens qui rentrent dans les parcelles de gens, casser la mangrove comme vous voyez, pour qu'il n'y ait plus la reproduction des poissons, pendant qu'on sait bien que dans le code de l'environnement c'est interdit, et ce genre de gens vont marcher, vont continuer à faire le désordre, parce qu'ils sont en bande organisée pour voler les terrains des gens, des villageois.
Les constructions anarchiques gagnent du terrain sur le littoral. Le grand dame des ONG de l'environnement, Nikes Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte.
Le système des Nations Unies, notamment par la FAO, prévient que plus de 3 millions de mangroves sont détruites dans le monde et attirent déjà la sonnette d'alarme. Dans la zone où nous sommes, par exemple, ce sont les prélèvements de matériaux. Les gens ont besoin du sable, les gens ont besoin de la latérite, mais ça crée d'autres problèmes parce que ça déséquilibre l'écosystème. Et donc nous avons une forte exposition, adaptation en termes de zones côtières, plus que les écosystèmes ne sont pas rétablis.
La spéculation foncière aggrave la destruction de la mangrove. Magloire Désiré Munganga, coordonnateur scientifique de l'Agence des parcs nationaux.
C'est révoltant parce que logiquement on ne devrait pas être dans une situation où des personnes construisent dans des endroits qui logiquement sont appelés à être inconstructibles. Là on a affaire à la situation de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui construisent dans le domaine public.
Le nord de Libreville est le plus touché. De belles bâtisses se dressent devant une étendue boueuse, autrefois site des mangroves. Pierre Bongolo, géomaticien.
Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits des rivières, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers.
Selon lui, les politiques publiques en matière de protection des mangroves sont restées au stade de bonnes intentions. Depuis Libreville, Ismaël Obiangenze, VOA Afrique.
La liberté de la presse a reculé dans le monde, y compris dans des pays qui ont longtemps été considérés comme libres. Dans un rapport, l'ONG Freedom House rapporte que de nouvelles formes de répression et de manipulation sont devenues fréquentes de l'Europe centrale jusqu'aux États-Unis. Freedom House cite des attaques nouvelles et très inquiétantes contre des médias de la part de l'administration Trump notamment. Voici un reportage à New York de Raymond Taylor. C'est un récit de Claire Morin-Gibourg.
Les hommes forts et autres dictateurs ont de tout temps travaillé à saper le travail des journalistes pour consolider leur pouvoir. Parmi les démocraties, de nouvelles tactiques sont apparues, selon le rapport de Freedom House sur la liberté de la presse. L'ONG a déclaré que l'influence de la Chine sur la mondialisation se faisait sentir, y compris dans ses efforts visant à exploiter les médias en Afrique. Sarah Repucci est la directrice recherche à Freedom House.
Ils font passer leurs messages dans des médias complaisants. Ils font également pression sur les journalistes, mais aussi sur les diplomates et les propriétaires de médias s'ils ont besoin d'une censure. Tout cela au nom de Pékin.
Selon Freedom House, ces reculs pour la liberté de la presse dans le monde font suite à la montée du populisme. Les deux régions, classées comme les moins libres du monde, l'Eurasie et le Moyen-Orient, Afrique du Nord, ont vu leur score diminuer de 9 et de 11% respectivement depuis 2014. Mais l'Europe a également contribué au déclin. Si 4 pays sur 5 sont considérés comme ouverts, le score moyen en Europe a chuté de 8%. Pour Freedom House, 16 pays désignés comme ouverts et progressistes ont vu leur score en matière de liberté de la presse diminuer au cours des 5 dernières années. Selon Sarah Repucci, l'auteur principal du rapport, les États-Unis, que Freedom House qualifie de « premier pouvoir démocratique du monde », maintiennent de solides protections juridiques face aux menaces et aux attaques dirigées contre des médias indépendants. Sarah Repucci.
Les principaux médias ont été très forts pour repousser ces attaques et continuer à publier des informations qui obligent les dirigeants à rendre des comptes. Mais le problème est que les normes peuvent changer et qu'il sera difficile de revenir à l'état où nous étions auparavant.
Dans des pays instables tels que le Soudan et le Venezuela, Sarah Repucci affirme que les médias sociaux, malgré leurs défauts, continue de jouer un très grand rôle en tant que bouée de sauvetage pour les journalistes et pour la démocratie dans son ensemble.
Depuis 2014, les États-Unis célèbrent en juin le patrimoine des immigrants. À cette occasion, la maire de Washington, Muriel Bowser, a officiellement lancé un mois de célébration communautaire. Le compte-rendu est signé Arzuma Compaoré.
En louant la contribution de ces immigrants, Washington DC célèbre aussi la diversité de sa population. Une diversité qui, selon la maire Muriel Bowser, enrichit la capitale fédérale américaine.
Nous célébrons aujourd'hui parce que nous savons que la diversité nous rend plus forts et qu'à Washington, nous sommes aussi forts que nos communautés les plus vulnérables.
Plus tôt cette année, Washington a alloué un fonds de $100,000 pour couvrir les frais de demande de naturalisation. Un investissement qui illustre la volonté croissante de la ville d'offrir toutes les opportunités à ses immigrants. Cela fait plusieurs années que Patience habite Washington DC, où sont nés 2 de ses 4 enfants, avec le chèque de $725 qu'elle a reçu et qui représente les frais de naturalisation. Elle se dit qu'il est maintenant temps pour elle de devenir citoyenne américaine.
Je vis ici depuis 52 ans et je n'ai jamais pensé à prendre la citoyenneté jusqu'à présent. Cela me touche beaucoup de recevoir ce chèque aujourd'hui et je tiens à remercier la maire de nous avoir ouvert la porte ainsi qu'aux générations futures.
Des événements et des programmes comme celui-ci sont organisés dans toute la ville pour sensibiliser les gens à ce que cela signifie être un immigrant, une question que nous avons posée aux Washingtoniens. Shemika Farquhar est d'origine trinidadienne. Elle est fondatrice de Soca Tribe, une organisation spécialisée dans le fitness communautaire.
Mes parents sont des immigrants et ils ont su créer un environnement dans lequel je pouvais connaître et assumer les valeurs de chez nous. Il faut du courage pour quitter ce que l'on connaît déjà, ce qu'on a de familier et avec lequel on est peut-être confortable.
Jennifer et Daniel sont tous les deux immigrants respectivement du Honduras et de Colombie. Pour eux, pas de meilleur moyen de célébrer leur joie de vivre dans la capitale américaine que de danser.
Nous voulons nous exprimer en faisant ce que nous aimons, la danse.
Vous embrassez le monde quand vous venez ici. Vous montrez au monde que vous pouvez, en tant qu'immigrant, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture que vous ne connaissez pas, et c'est génial.
Gambo est habitante de Washington DC, elle est originaire de Colombie.
Ça veut dire que nous nous réunissons tous pour créer quelque chose. C'est ce que nous sommes, c'est pourquoi nous venons ici, pour être quelque chose, pour être ensemble, pour être unis.
Elisabeth Ngachu habite à Washington DC, elle est originaire du Cameroun.
Je suis immigrée donc je dois apprendre tout, je dois m'ajuster, je dois m'adapter. C'est pas quelque chose de facile à faire.
Et alors que les habitants de Washington DC passent devant l'installation du cœur géant sur la place civique de Columbia Heights, un message important leur est rappelé. celui de célébrer la diversité partagée, ce tissu unique qui fait l'Amérique, non seulement pendant le mois du patrimoine de l'immigrant, mais également chaque jour de l'année.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, Bill Andrade. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également, bien sûr, sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA